Que le nom du Seigneur soit béni. Qui veut l'onction? Franchement, on chante des choses d'une profondeur. Quand Jérôme chantait « Ça y est, on est arrivé », heureusement qu'il a dit la suite, on est arrivé à le chanter. Et il a dit « Mais il faudrait arriver à le vivre ». Et c'est certain que Dieu nous aidera. Et c'est certain que le diable fera tout pour qu'on n'y arrive pas. Et il y a un combat terrible qui se joue dans chacune de nos âmes. Et pourtant, Dieu veut qu'un feu brûle dans notre cœur. Vous connaissez la question que Jésus a posée un jour. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Moi, c'est une question par laquelle le Seigneur m'a beaucoup interpellé, parce que dans un cœur qui brûle, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Et si nous voulons faire la volonté de Dieu, il faut que ce feu brûle. Nous sommes peut-être comme les disciples d'Emmaüs. Vous savez, ces deux disciples, le jour de la résurrection, qui partaient complètement flagada parce qu'ils ne comprenaient pas. Et pourtant, Jésus les a rejoints. Vous vous rappelez cette affaire? Jésus les a rejoints. Ils ne l'ont même pas reconnu. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce que Jésus les rejoigne. Et vous savez comment cette histoire s'est terminée? Dans un moment de communion, ils ont reconnu que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous avons besoin, c'est que nous réalisions que le Seigneur, il est vivant et qu'il veut que nous vivions ces choses. Ces cantiques, franchement, je comprends pourquoi il est dit « Entretenez-vous par des cantiques spirituels ». Ce sont des cantiques spirituels. Ce qu'on a chanté ce soir, ce sont des cantiques spirituels. Et vous voyez, quand on chantait « Feu du fondeur », hier soir, je me suis endormi. Je me suis endormi avec cette... Ça fait 2 mois que je suis obsédé par le Zacharie chapitre 4. Vous savez, quand on voit ces deux oliviers qui alimentent le vase, et le vase alimente le chandelier à cette branche, vous savez. Et c'est comme si Dieu me disait hier soir, mais voilà, si tu veux que l'huile du Saint-Esprit coule, il faut que ta vie soit comme un chandelier tout en or. C'est-à-dire ce qu'on vient de chanter, à savoir entièrement purifié. Alors, nous allons ce soir faire un petit peu un check-up, comme on dit, de notre vie. Est-ce que nous sommes des disciples? Vous savez, Jésus a dit, on va le lire dans Matthieu chapitre 28, avant de remonter au ciel, il a fait des promesses, il leur a expliqué qu'il était avec nous tous les jours, que tout pouvoir lui avait été donné. Est-ce que ça vous rassure de savoir que Jésus est assis sur son trône et que tout pouvoir lui a été donné? Dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que sur la terre, avec une église qui obéit, Dieu peut tout faire. C'est pour ça que je vous disais, mais qui veut l'onction? Car il y a un prix à payer. N'imaginons pas que Dieu va nous donner l'onction comme ça, parce que nous serions intéressés. Il y a un prix. C'est clair qu'il y a un grand prix à payer, même si Dieu nous aide. Matthieu chapitre 28, vous connaissez le verset 19. Et je voudrais ce soir que l'on fasse un point, parce que dimanche, et c'est jeudi soir à la réunion de formation des frères, nous allons aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ce qu'est un responsable, un évêque, un diacre, une diaconesse. Certains chrétiens sont en décalage complet entre ce qu'ils voudraient être ou ce qu'ils voudraient faire et ce qu'ils sont véritablement. Alors ça commence automatiquement par une remise à niveau. De temps en temps, il faut le faire. Matthieu chapitre 28, verset 19, qu'a dit Jésus? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, virgule, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, s'il y a bien une chose que Dieu veut d'abord faire, c'est faire des disciples. Alors, est-ce que vous êtes un chrétien ou est-ce que vous êtes un disciple? Vous allez me dire, mais c'est pareil. Alors, est-ce que c'est pareil un chrétien et un disciple? C'est à Éphèse que la première fois, les disciples ont été appelés des chrétiens. Vous connaissez ce texte, hein? Voilà, c'était une moquerie. On se moquait des disciples, on les appelait des petits Christ pour se moquer d'eux, parce que, mais quelle insulte! Moi j'aimerais bien qu'on nous insulte de cette façon, tellement nous ressemblerions au Seigneur Jésus-Christ. Vous aimeriez pas être insulté de cette façon, qu'on se moque de vous, tiens celui-là, eh bien il ressemble vraiment à Jésus-Christ. Eh bien ça serait bien que dans nos villes, dans nos églises, eh bien les chrétiens soient véritablement comparés à Jésus-Christ, tellement ils lui ressemblent. C'est souvent l'inverse qui s'est produit, c'est que les gens ont fui les églises parce que les chrétiens ne ressemblaient pas du tout à Jésus-Christ. Donc la question elle est là. Faites des disciples. Moi, en tant que pasteur, je me pose beaucoup de questions. Je le vois, je pense que je ne suis pas le seul. Beaucoup de chrétiens ne sont pas des disciples. Alors, à quoi reconnaît-on un disciple? C'est la question qui nous préoccupe ce soir. On va le voir à une demi-heure. On va voir si oui ou non nous sommes des disciples. C'est important de le savoir, car Jésus, parle à 4 reprises, en tous les cas dans les évangiles, du caractère du disciple. Alors on va voir le premier texte. C'est important, mes frères et sœurs, parce que si nous ne sommes pas des disciples, ce que nous avons chanté, ce que nous avons lu, ce que nous avons été exhortés à vivre dans ces cantiques, ça ne se produira pas. Premièrement, dans Jean au chapitre 8 et au verset 31, ça serait bien que vous notiez, je pense aux stagiaires, Jean chapitre 8, verset 31. Jean chapitre 8, verset 31. C'est important de prendre des notes et de peut-être pendant les jours qui vont suivre, de dire « Tiens, mais c'est vrai, je connais ces textes, mais il faudrait peut-être que je me mette vraiment à les vivre. » Jean chapitre 8, verset 31. Quelle est la première fois où Jésus indique le caractère d'un disciple ? Car ce n'est pas parce qu'on est dans une église qu'on est un disciple. Jean chapitre 8, verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Je le relis. Premier point. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc voilà le premier caractère de ce qu'est un disciple. Il est honnête vraiment avec ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce qu'il pense qui est important. Vous savez, moi quand je vois, même ici, des chrétiens qui me disent « Mais oui, vous avez dit ça, mais moi je pense... » Non mais attendez, vous vous rendez compte? Quand il y a des gens qui vous disent « Oui, moi je, vous parlez de l'enfer, mais moi je ne suis pas sûr que l'enfer existe. » Écoutez, Jésus, il était amour, il n'a jamais parlé de l'enfer. S'il y en a un qui a parlé de l'enfer, écoutez, je ne sais pas si vous avez lu la Bible, mais s'il y en a un qui parle de l'enfer dans les évangiles, c'est bien lui. C'est pour vous dire que les gens ne sont pas honnêtes. Ça, c'est la preuve que quelqu'un n'est pas honnête quand il s'autorise à dire « Oui, moi je pense. » Ce que vous pensez, ce qu'on pense, c'est bien. Mais ça ne remplacera jamais la vérité. Et à quoi reconnaît-on un disciple ? Ce n'est pas ce qu'il pense qui est important, c'est ce que Dieu dit. Et ça commence par cette affaire de vérité. Il y a une attitude honnête devant Dieu. Dieu l'a dit, c'est important. Dieu veut que je sois un disciple. Est-ce que Dieu veut qu'on soit pentecôtiste ? Il y a des gens qui se s'ergotent là-dessus. Moi, je suis presbytérien. Moi, je suis pentecôtiste. Franchement, est-ce qu'on est vraiment un disciple du Seigneur Jésus-Christ ? Être toujours au bénéfice de la vérité. Cette réunion, elle aura de la valeur si vraiment on cherche la vérité. Vous voyez les cantiques, moi je trouve que les cantiques, ça prépare la réunion. C'est pour ça que c'est important d'avoir des cantiques spirituels, de marcher dans la vérité. C'est dans Zacharie, il dit, mais aimez la vérité. Vous aimez la vérité ? Pour les autres ou pour vous ? Parce que des gens, ils envoient des fois des coups de coude. Tiens, ça c'est pour toi. Ça, c'est, hein, tiens, ou ça c'est pour ma belle-mère. Je le lui dirai. Ouais, bon. Vous connaîtrez la vérité. À quoi on reconnaît un disciple ? Il veut entendre la vérité. Je vous donne un exemple qui m'est venu à l'esprit quand je préparais cette prédication. Il y a un monsieur qui est venu d'une église il n'y a pas longtemps. Il est venu d'une église parisienne. Écoutez, c'est pathétique. Il est venu d'une église parisienne, il me dit « Monsieur Gau, voilà, je vous écoute de temps en temps sur Internet, j'aimerais avoir votre point de vue. Voilà, je suis dans une église évangélique. Je suis dans une église évangélique et voilà comment ça se passe, le ramassage des offrandes. Voilà, on va ramasser les offrandes. Voilà, alors, vous allez montrer le billet que vous donnez au Seigneur. Alors voilà, chacun sort un billet. Ah, voilà, la bague. Un billet de 20 euros, c'est bien. Levez la main, bien haut. Ah, là-bas, un billet de 50 euros, c'est bien. Qui ? Non mais... Alors il m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, Moi, j'ai écrit, j'ai lu dans la Bible que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Et puis après, bien sûr, dans cette église, celui qui a donné le plus, il vient sur le devant et on prie pour lui, pour que Dieu le bénisse. Est-ce que cette église marche dans la vérité ? Mais voyez, et le gars qui était chrétien, il m'a dit, oui, c'est vrai que c'est écrit quelque part ça. Non, mais franchement, rien, je ne sais pas. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est de n'importe quoi, ça se croirait dans une vente aux enchères. Vous vous rendez compte de la Bible, c'est pour ça que c'est bien, on a des enveloppes, chacun met ce qu'il veut dedans. Voilà, c'est que ta main droite ne sache pas ce que donne ta main gauche. Ça nous montre qu'il faut être le plus discret possible. Quelqu'un qui est un vrai disciple... Bon, ce gars, ça faisait des années qu'il était converti. Donc quelqu'un, vous voyez, converti depuis 15 jours, je comprends que le gars il soit un peu instable. Mais au bout de 3-4 ans de conversion, Je pense qu'un chrétien, il doit bien sentir que, ça va, que quelque chose ne va pas là-dedans. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce n'est pas vieux, ça. Et ça s'est véritablement passé. Vous connaîtrez la vérité. Et un des signes de la fin des temps, vous le savez, l'apôtre Paul prophétise, que les hommes, ils n'auront pas l'amour de la vérité. Mais ils auront... comment il s'est écrit dans Thessaloniciens? Il est dit que Dieu leur enverra une puissance d'égarement parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité et que Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et quand on n'aime pas la vérité, eh bien Dieu nous laisse à notre libre cours et nous finissons par adopter des mensonges. C'est écrit dans 2 Thessaloniciens, je vous le cite pour que ça aille plus vite. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, c'est l'amour de la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on pense qui est important. Ce n'est pas à nous de juger la Bible. Quand je vois des chrétiens qui commencent à juger la Bible, je me dis ça finira mal. On n'est pas habilité pour juger la Bible. C'est à la parole de Dieu de juger notre cœur. Quand on lit la parole de Dieu, on laisse la parole de Dieu sonder notre cœur. Quand on croit que les méthodes humaines peuvent remplacer la vie de l'esprit, je vous dis que je suis en ce moment obsédé par Zacharie chapitre 4, quand Dieu dit à ce pauvre reste du peuple, parce que tout le monde avait fui à Babylone, il restait un peu de gens qui voulaient reconstruire, eh bien Dieu dit, mais ne t'inquiète pas. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. On voit que Dieu a le pouvoir, par son esprit, de faire de grandes choses avec un petit monde, avec un petit nombre. Vous le croyez, ça, que Dieu peut faire de grandes choses avec un petit nombre? Est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit. Et Dieu veut toujours nous rassurer, à condition que nous obéissions, à condition que nous soyons ces hommes et ces femmes qui aimons la vérité. Rien ne peut remplacer la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons chercher la vie de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, le monde ne peut pas le recevoir. Il y a beaucoup d'églises où l'Esprit de Dieu n'agit pas parce que les gens aiment le monde. Ils aiment plus The Voice que la voix du Seigneur. Ils aiment plus la télévision que regarder la parole de Dieu. Ainsi de suite. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. C'est écrit, mort sur blanc, et c'est Jésus qui l'a dit. C'est Paul qui dit aux Galates, mais qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Qui vous a empêché? On voyait bien qu'il se passait quelque chose dans cette église, parce que le légalisme avait repris le dessus. Ils pensaient qu'avec certaines lois bien bien présentées, eh bien Dieu les bénirait. Non, il leur dit, mais vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification par la loi. C'est Pierre qui dit, nos âmes sont purifiées en obéissant à la vérité. Mes frères et sœurs, un vrai disciple, il est submergé par la vérité. Il aime la vérité. Il est bouleversé par la vérité. Il a besoin d'entendre la vérité. Quand il va dans l'église, il dit, Seigneur, je veux entendre ce que tu as à me dire. Ce matin, je réfléchissais là, par rapport à Zacharie chapitre 4, mais c'est une grâce d'être appelé par Dieu. Ce n'est pas une grâce d'être appelé par Dieu? Quand vous voyez certains qui considèrent presque le fait d'être appelé par Dieu comme une corvée, ils n'ont pas compris. C'est une grâce que Dieu dise à quelqu'un, c'est moi qui t'ai choisi. Est-ce que ce n'est pas une grâce? C'est une grande bénédiction. Réfléchissez à ces choses. La vérité, Dieu veut qu'on l'aime. Aimer la vérité. Un disciple, c'est quelqu'un qui aime la vérité. Qui aime la vérité. Deuxièmement, le caractère du disciple, Jean chapitre 13, verset 34. Vous méditerez ces choses, elles sont importantes. Parce que l'action du Saint-Esprit est liée au fait que nous sommes ou que nous ne sommes pas des disciples. Jean chapitre 13, verset 34. Ce sont des textes où Jésus explique ce qu'est un disciple. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Ce n'était pas nouveau, croyez-moi. Mais c'est nouveau dans le sens où c'est toujours à renouveler. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Quelle sorte d'amour avons-nous pour les autres? Quelle sorte d'amour avez-vous? Quelle sorte d'amour avez-vous choisi d'avoir? Parce qu'on peut avoir un amour sentimental, un amour humain, un amour, vous savez, qu'on a dans le monde. Est-ce que Jésus parle des païens? Mais les païens, ils aiment aussi. Il n'en parle pas, Jésus, de ça? Oui. Quel amour avons-nous choisi de porter aux autres? Comment manifestons-nous l'amour à notre prochain? Votre prochain, c'est qui? C'est qui votre prochain? C'est qui votre prochain? C'est vous, c'est moi, Voilà. Votre prochain, c'est votre mari, c'est votre femme, c'est vos collègues de travail, c'est votre pasteur. Comment avez-vous manifesté votre amour à votre pasteur? Eh oui. Qui c'est qui a dit en priant pour lui? Ça, c'est manifester de l'amour. Moi, je vous le dis franchement. Si vous ne priez pas pour votre pasteur, c'est que vous ne l'aimez pas beaucoup. Je le pense vraiment. Je veux bien croire que vous l'oubliez, mais une fois, ça va. Mais je pense... Ah, mais j'en suis convaincu. Hein. Moi, je prie tous les jours pour l'Église. Tous les jours. Je le dis parce que je crois que c'est un choix. Comment on choisit d'aimer? Ça commence dans l'Église. Oui, je choisis d'aimer. C'est nos supérieurs. C'est les gouvernants du pays. Il faut aimer les oui, il faut aimer ceux qui nous gouvernent. C'est écrit de prier pour eux chaque jour. Ouais, la Bible nous demande de prier pour ceux qui nous gouvernent. Ça ne veut pas dire qu'on va leur sauter dessus, leur faire des bisous, mais ça veut pas dire qu'on pense que Dieu va les bénir. Seigneur, que ta volonté soit faite au niveau de notre nation. C'est important. C'est ça aimer. Aimer, ça veut dire voilà, Dieu me demande de faire ça par rapport à ceux qui nous gouvernent. Je le fais. Dieu nous demande-t-il d'aimer nos ennemis? Est-ce que c'est écrit « Aimez vos ennemis » ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ceux avec qui j'ai eu des difficultés, je vais leur courir, je t'aime. Est-ce que c'est ça ? Ben non, ça c'est de l'hypocrisie. Mais Seigneur, tu vois, ces gens avec qui j'ai eu des difficultés, je te prie de leur parler, je te prie de leur faire grâce, je te prie de les bénir quand même. Oui, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ça, aimer. C'est un choix. Et on reconnaît un disciple à cela. C'est quelqu'un qui a décidé d'aimer ses amis, ses frères, ses sœurs, ses gouvernants, son pasteur, ses ennemis, ses collègues de boulot. Voilà, quand on voit comment certains chrétiens parlent de ceux avec qui ils travaillent, je peux vous dire que ce ne sont pas des disciples. Celui-là, je ne lui parle pas. Il me saoule, je ne lui parle plus. Je ne lui dis plus bonjour, il m'énerve. Voilà, vous n'êtes pas un disciple. Si vous en êtes là... Je peux vous dire que vous n'êtes pas un disciple. Vous devez dire, Seigneur, je bénis. Et le matin, avant de partir au travail, de vous mettre à genoux s'il le faut. Et de... Je sais ce que c'est, je l'ai vécu. Des gens qui m'ont fait vraiment du mal. Et de les voir changer parce que j'avais décidé de les aimer. Et je pense qu'on est plusieurs à avoir vécu ça. Je vois Madame Fabio qui me... Je me rappelle d'une expérience que vous avez faite, vous vous rappelez hein? Une expérience que vous avez faite, je me souviens, que vous l'aviez racontée. Comment Dieu est capable d'incliner le cœur de quelqu'un qui est méchant? C'est vrai ou c'est pas vrai hein? Et un disciple, c'est quelqu'un qui a décidé d'aimer. Il est soucieux d'aimer. Et ce n'est pas de son amour à lui, parce que l'amour que nous avons, nous, ça ne va pas aller loin. Mais l'amour du Seigneur, est-ce que l'amour du Seigneur peut nous presser? Est-ce qu'on peut se mettre à genoux ou se mettre devant Dieu et se dire, Seigneur, donne-moi de l'amour pour cette ville dans laquelle tu m'as placé? Moi, quand j'entends quelqu'un dire, cette ville, elle me saoule, elle est pourrie, cette ville. Mais ce n'est pas un disciple. Moi, je crois que toutes les villes sont dans les ténèbres. Toutes les villes. Vous croyez qu'il y a une ville meilleure qu'une autre? Franchement, moi, je crois que tout le pays est dans les ténèbres. Tout le pays est sous la puissance du malin et nous devons aimer l'endroit où Dieu nous a placés. Dieu vous a placés à Toulouse, nous devons aimer cette ville de Toulouse. Oui ou non? C'est un choix, mais à ceci, les gens reconnaîtront que nous sommes des disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Et avant son arrestation, vous avez vu Jean, on est dans Jean 13, oui, au début du chapitre. Vous avez vu au début du chapitre comment Jésus a fait? On peut lire juste le début. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ça me dit long ça, il savait tout ce qu'il allait vivre. Qu'est-ce qu'il fait? Il a aimé les siens qui étaient dans le monde, et qu'est-ce qu'il fait? Il mit le comble à son amour pour eux. Il a mis le comble. Le comble, ça veut dire qu'on ne peut pas faire plus, on ne peut pas remplir davantage. Jésus a décidé d'aimer. Et Jésus dit, c'est mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Celui qui n'aime pas son frère, vous connaissez la suite? Est-ce que quelqu'un peut me dire la suite? Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Et le diable le sait. Et le diable, s'il peut nous amener à ne pas aimer quelqu'un, laissez-moi vous dire qu'il va gagner du terrain et nous ne serons pas des disciples. Aimer, c'est un choix. On a chanté « Je choisis d'obéir ». Vous l'avez tous chanté tout à l'heure? Jérôme, vous avez regardé si tout le monde chantait? Tout le monde chantait? Bon, Jérôme me fait signe que oui. Donc, vous avez chanté « Je choisis d'obéir ». C'est un choix. Si nous ne voulons pas aimer, nous ne sommes pas des disciples. Après, soyons honnêtes, parce qu'il y a des fois, il faut dire des choses à des gens. Moi, ça m'étonne. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec moi, parce que je leur ai dit les choses, mais je pense qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Jésus a dit à des pharisiens que c'était des hypocrites. Je pense que... Est-ce qu'il a bien fait de leur dire ? Ça aussi, c'est un autre domaine, ça. Savoir quand est-ce qu'il faut dire ou pas dire les choses. Vous voyez ? Mais Jésus a dit à des hypocrites, à des pharisiens, à des pasteurs, que c'était des hypocrites, dans leur synagogue à eux, je veux dire, et moi je crois qu'il a bien fait. Parce que je crois que nous devons avoir cet équilibre, mais une chose est sûre, je pense qu'il l'a fait parce qu'il les aimait. Et on ne dit pas des choses avec de la haine, mais on dit les choses parce qu'on a de l'affection pour les uns et pour les autres. Voilà, le choix d'aimer, c'est un danger si on n'aime plus. D'autant plus qu'une des prophéties de la fin des temps fait froid dans le dos à cause de l'iniquité. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais nous sommes là ce soir, nous devons, si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir le baptême du Saint-Esprit, si nous voulons voir cette onction que nous avons si bien chantée tout à l'heure se déverser, il faut que nous nous remettions à niveau par rapport à la vie de disciples. C'est quelque chose de fondamental. Le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Mes frères et sœurs, soyons sérieux avec cette affaire, décidons-nous d'aimer. Vous savez, moi, quand j'entends un chrétien qui me dit « Oui, j'ai du mal à aimer ma femme », ça fait mal au cœur quand même. Oui ou non ? Vous vous rendez compte, quand vous êtes pasteur ou chrétien, que vous entendez un frère dire « Moi, j'aime pas ma femme ». Moi, je crois que c'est un piège dans lequel on est tombé. Moi, je crois que Dieu peut nous donner de l'amour, même pour nos ennemis. On ne va pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le troisième trait du caractère se trouve dans Jean au chapitre 15. Je vous rappelle que ce ne sont que des textes qui nous parlent de la vie de disciples. Jean chapitre 15, verset 8. Alors, vous connaissez le chapitre 15 de Jean, qui est une parabole extraordinaire sur le cep et les sarments. Qu'est-ce que Jésus dit ? Jean chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, alors ce n'est pas un petit peu de fruits. Alors le fruit, vous voulez importer du fruit ? Un peu, beaucoup, passionnément. Hein? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui a une telle communion avec Dieu qu'il va porter du fruit. C'est incontournable. Si vous portez beaucoup de fruits, une église doit porter du fruit. Et je vous pose la question, est-ce que nous portons du fruit. Du fruit, alors le fruit, quelle sorte de fruit, justement, portez-vous ? Ah tiens, la Bible parle du fruit de l'humilité. Être humble, c'est un fruit. Je choisis d'être humble. Je choisis. Est-ce que ça peut nous arriver d'être orgueilleux ? Ben oui. Ben oui, ça peut nous arriver. Moi, dernièrement, j'ai eu une discussion avec ma femme, et au bout d'un moment, ma femme, elle me dit, mais Gérard, c'est de l'orgueil. Je dis, mais tu plaisantes. Mais réfléchis. C'est de l'orgueil. Et j'ai réfléchi, et au bout d'un moment, j'ai dit, mais t'as raison, c'est de l'orgueil. Et on ne se rend pas compte. Mais dès que... On devrait demander à des gens qui nous aiment, justement, ce qu'ils pensent vraiment. Parce que, est-ce que c'est toujours facile de dire les choses aux gens ? C'est pas toujours facile. Et bénissez Dieu si vous avez un conjoint qui vous dit les choses. Parce que je crois que c'est une bénédiction. Et je vous assure, quand elle me l'a dit, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et j'ai réfléchi, et j'ai été demander pardon à une personne. Et je dis ça parce que je suis pas sûr que l'on se rende toujours compte de nos réactions qui peuvent être empêtrées d'orgueil. Mes frères et sœurs, que Dieu nous éclaire. Le fruit de l'humilité. C'est quelque chose que Dieu veut, que nous soyons humbles. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Le fruit de la sainteté. La Bible parle-t-elle du fruit de la sainteté ? Eh oui, le fruit de la sainteté. C'est pour ça que nous devons faire attention à ce que nous regardons, mes frères et sœurs. Non ? Est-ce qu'on doit faire attention à ce que l'on regarde ? Eh ouais. Quand on ne veille pas sur ce que l'on entend. Vous savez, je réfléchis beaucoup en ce moment sur la consécration. Et vous savez, un jour, je vous expliquerai vraiment le sacrifice de consécration dans l'Ancien Testament. Vous savez, quand on égorgeait le bélier de consécration, et qu'après, le sang répandu parle toujours du pardon de nos péchés, Et puis après, il y a le sang répandu qui part de la vie, qui est communiqué. Et ce sang qui était répandu, on prenait de ce sang répandu et on en mettait sur l'oreille du sacrificateur pour que nous comprenions bien que nous devons veiller à ce que tout ce que nous entendons soit sanctifié. Nous devons purifier notre oreille. Mes frères et sœurs, est-ce que nous veillons à la sanctification? Ce que nous entendons, ce que nous voyons, etc. La Bible parle du fruit de la repentance. Est-ce que c'est que les païens qui doivent se repentir ou est-ce que nous, les chrétiens, il nous arrive d'avoir besoin de nous repentir? Ben oui. Moi, j'ai entendu, c'est les païens qui doivent se repentir. Moi, je crois que même nous, les chrétiens, il peut nous arriver régulièrement d'avoir besoin de nous repentir sincèrement. C'est Jésus qui dit aux églises de l'Apocalypse, repentez-vous, repentez-vous. Donc, ça prouve bien que les chrétiens peuvent se repentir. Le fruit de la lumière, le fruit de la justice, le fruit des lèvres. Cela fait partie des caractéristiques d'un disciple. Un disciple, il fait attention. L'autre jour, moi, j'ai discuté avec un chrétien. Et dans la conversation, il a employé un mot grossier et il l'a justifié. C'est pas un chrétien d'ici, mais moi, c'est pas grave, c'est un chrétien. Il l'a justifié. Et il a dit ça par grave, je le dis, c'est pas grave. Et j'ai dit si, c'est grave. Parce qu'un chrétien, écoutez, vous l'avez lu comme moi, si vous portez du fruit, vous serez mes disciples. Et quand on s'autorise à ne pas porter du fruit, c'est la preuve qu'on ne veut pas être un disciple et que ce qu'on chante sur « je choisis d'être saint », eh bien c'est de l'hypocrisie. Le Seigneur pourrait nous dire « vous êtes des hypocrites ». Oui ou non? Imaginez que je parle grossièrement et que vous me voyez chanter de tout mon cœur « je choisis d'être saint », qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez mais c'est vraiment le roi des hypocrites. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre ce que l'on chante et ce que l'on vit. Oui, je vous serez mes disciples si vous portez beaucoup de fruits. Et vous connaissez cette parabole dans Luc 13, où il parle la parabole du figuier, vous savez, il y a une ferme, cette ferme elle a été louée à quelqu'un, et puis le maître de la maison il revient, il dit, mais voilà, ça fait ce figuier, est-ce qu'il porte du fruit? Je vous résume la parabole. Non. Ça fait combien de temps qu'il ne porte pas de fruits? Ben ça fait 3 ans. Ah bon? Vous connaissez cette parabole? Et qu'est-ce qu'il dit le maître de la parabole? Hein? Voilà 3 ans que je viens pour chercher du fruit, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Attends, je vais mettre du fumier, je vais mettre de l'engrais, etc. Je vais faire une haie tout autour. Et s'il ne porte pas de fruits, je le couperai. Pourquoi? Coupe-le. C'est une question moi, qui m'a toujours fait frémir, parce que je sais que Dieu ne s'intéresse pas aux figuiers. Dieu s'intéresse aux arbres qui sont le symbole des hommes. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Est-ce que vous aimeriez que Dieu vous dise un jour, tu sais, tu as occupé la terre inutilement? Moi, c'est une chose que je ne supporterai pas. Et pourtant, que de chrétiens sont, il faut dire la vérité, parce qu'on ne va pas tourner autour du pot, combien de chrétiens à qui Dieu pourrait dire « tu es inutile, tu fais rien ». C'est ça que vous avez envie d'entendre? Ou vous avez envie d'entendre « entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, tu avais un talent, tu l'as fait valoir, tu l'as multiplié ». C'est ça qu'on a envie d'entendre, parce qu'on va passer devant Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que ça sera la chose la plus importante de notre éternité? Vous rendez compte, il y a des gens qui vont s'entendre dire « retire-toi de moi, je ne te connais pas ». Mais on a fait des miracles en ton nom, on a fait « je ne te connais pas, retire-toi de moi ». Eh oui, ce n'est pas une question de don. Là, on parle du fruit. Un arbre, on ne le reconnaît pas au don, on le reconnaît au fruit. Un sapin à Noël, vous avez vu le sapin à Noël? Vous avez vu un sapin dire oh, « t'as vu tout ce que je porte ?» On pourrait dire « mais attends, c'est pas toi qui le portes, c'est qu'on te l'a mis dessus. » Il y a beaucoup de chrétiens, ils ont des dons. Mais les dons, c'est des dons. Mais le fruit, c'est le résultat de ce que nous sommes en communion avec le Seigneur. Et mes frères et sœurs, c'est là que nous devons veiller. C'est pas parce qu'on a reçu un don, voyez, c'est pas parce qu'on a reçu un don pour, je sais pas, moi, n'importe quoi. Est-ce que parce qu'on joue bien du piano, est-ce que ça peut être un don? Oui. Prêcher, est-ce que c'est un don? Vous voyez, c'est les dons ministères. Mais le fruit, il est dans la prédication ou le fruit, il est ailleurs dans le comportement? Et c'est dans le comportement. On reconnaît un arbre au fruit. C'est pour ça que Jésus dit, vous serez mes disciples si vous portez beaucoup de fruits. Parce qu'un arbre, s'il est bien traité, s'il est bien taillé, s'il est bien arrosé, etc., etc., il doit porter du fruit. Moi, j'ai un cerisier dans le jardin. Je pense que c'est la 3e année qu'il ne me fait que 4 ou 5 cerises. Il ne se rend pas compte. Il va passer un mauvais quart d'heure. Vous voyez? Et bon, mais c'est qu'un arbre. c'est pas grave, le pauvre. Mais quand ça concerne les chrétiens, à qui Dieu peut dire pourquoi occupe-t-il la terre inutilement, mes frères et sœurs, soyons de véritables disciples. Le quatrième, c'est le plus important, mais on n'a pas le temps de le voir parce que c'est vraiment le plus important. On va juste le lire. Les trois premiers, c'est rien. Ce qu'on vient de voir, ce n'est rien à côté du quatrième. Par contre, je vais vous demander de le travailler d'une manière personnelle, parce qu'il prendrait une autre demi-heure, mais j'aimerais quand même qu'on le lise ensemble. Dans Luc, au chapitre 16, c'est vraiment le quatrième, c'est vraiment ce qui caractérise vraiment un disciple. Parce qu'on peut faire certaines choses sans vivre ce que l'on va lire maintenant. Luc, chapitre 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Ça, c'est les disciples. Ça, c'est vraiment le disciple. C'est un sujet, là, c'est un sujet qui des livres entiers ont été écrits sur ces versets, et à juste titre. Des séminaires entiers ont été faits sur ces quelques versets que nous allons lire. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » On ne peut pas être un disciple sans ce trait de caractère. Et hélas, voilà pourquoi beaucoup d'églises piétinent, sont freinées, n'avancent pas, parce qu'il n'y a pas ce renoncement, il n'y a pas cette abnégation, ce désir de dire non, je ne veux pas faire ma volonté, mais je veux faire ta volonté. Le chant que notre frère Jérôme a pris, là, est-ce qu'on l'a appris? Ça y est, on a réussi. Mais ça vaudrait la peine de le rechanter pour terminer la réunion. De le rechanter, de dire, mais c'est clair. Un disciple, c'est quelqu'un qui a décidé que ce que Dieu a dit, c'est vrai. Quand il est, ce matin, je méditais sur, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais qu'on appartient à Dieu, que vous avez été racheté à un grand prix. Nous, on a du mal à comprendre cette affaire parce qu'aujourd'hui, on ne vend plus des hommes. Mais imaginez qu'il y ait au marché, en plus des poulets, des canards, des œufs et des concombres, on vende des gens. Imaginez-vous qu'on vende des gens. Qui c'est qui nous a rachetés à grand prix? Ça veut dire, vous savez, sur le marché, on vendait des poulets. Bon, les poulets, ils avaient toujours le même prix, ou les canards. Mais les esclaves, ils étaient vendus à celui qui donnait le plus grand prix. C'est-à-dire, si un homme disait, voilà, t'es celui-là, il vaut 500 euros, non. Et Jésus, c'est lui qui nous a rachetés. Il nous a rachetés au prix de sa vie. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et lorsqu'un esclave était acheté, comme cela nous est présenté, nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Il nous a amenés dans sa maison, mais dans la maison où un esclave était amené. Il y avait plusieurs fois, on peut obéir joyeusement, on peut dire, ouais, je suis un esclave, il faut que je fasse les choses. Mais il y a des esclaves qui ont donné leur vie pour leur maître, parce qu'ils étaient tellement reconnaissants de ce que le maître les avait acheté déjà. Est-ce qu'on pouvait être racheté par un maître meilleur que Jésus-Christ? Bien sûr que non. Est-ce que vous vous rendez compte le prix que Dieu a payé pour nous racheter? C'est un honneur d'entrer dans sa maison. C'est un honneur que de comprendre ces choses. Et un disciple, c'est quelqu'un qui décide de ne plus vouloir faire sa propre volonté. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réveil. Mais pourquoi il n'y a pas de réveil? Parce qu'en vérité, les gens ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Ils veulent faire leur volonté. Et c'est une question qu'on abordera, je n'ai pas le temps de développer ce point, parce que franchement, ça prendrait trop de temps. Mais il y a quand même quatre points que chacun d'entre nous pouvons nous mettre à méditer. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire aller après Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire renoncer? Qu'est-ce que ça veut dire se charger de la croix? Qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? C'est ça un vrai disciple. Alors, mes frères et sœurs, soyons sérieux. Voilà, bon, appliquons-nous aux trois premiers qu'on vient de voir. Mais celui-là, est-ce que vous et moi, nous pouvons dire oui, ce n'est pas moi qui décide. Ma vie, elle appartient au Seigneur. Et là, peut-être que nous aurons des questions. Et moi, je sais qu'un livre qui m'a beaucoup aidé, rien que le titre, je vous l'ai dit plusieurs fois, quand je me suis converti, moi, je voulais faire la volonté de Dieu. Et je me rappelle, je ne connaissais rien, je n'avais jamais ouvert ma Bible, rien. Et J'ai été à la bibliothèque, j'ai dit à Madame Santana, à l'époque qui tenait la bibliothèque à Castres, j'ai dit, mais donnez-moi un livre qui me permette de comprendre la doctrine, etc., etc. Et elle m'a dit, ah tiens, ce livre, c'est bien. Et le livre, c'était « Que ferait Jésus à ma place ?» Ah mais ce livre, en plus qu'il est bien, il est super bien écrit, moi j'aime la tournure de phrase, etc., bon mais ça c'est autre chose, mais le titre, vous savez, quand vous avez quelque chose à faire, et que vous dites, mais qu'est-ce que ferait Jésus à ma place ? Laissez-moi vous dire que vous gagnez du temps. Moi, je vois des chrétiens, des fois, ils me disent, Monsieur Gou, ça fait 2 mois que je réfléchis à un truc, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, est-ce que vous vous êtes posé la question ? Que ferait Jésus à ma place ? C'est bon, j'ai la réponse. Vous vous rendez compte ? Et moi, je crois que si je suis rentré aussi vite dans le ministère, je le dis, c'est mon expérience, c'est parce que ce livre, la question de ce livre, m'a beaucoup aidé à ne pas perdre de temps. Que ferait Jésus à ma place ? Croyez-moi, si vous avez un chef de service qui est pénible, que ferait Jésus à ma place ? Eh bien, il prierait pour lui. Il prierait pour lui. Peut-être même il jeûnerait pour qu'il se passe quelque chose. Et il se passera quelque chose. Parce que quand on est un disciple, on choisit d'aimer. Et là, on est dans un point archi important. On y reviendra, Dieu voulant, à moins que j'ai quelque chose à cœur, on y reviendra mardi prochain. Mais priez pour cela. Priez pour que dans l'Église, les chrétiens devenions de véritables disciples. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous voulez voir l'onction ? Dans l'Église, eh bien, soyons des disciples. Demandons au Seigneur qu'il nous aide pour l'évangélisation. Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place ? Eh bien, voyez, ce soir, il partirait avec 2 ou 3 évangiles. Est-ce que vous croyez que c'est bien de partir avec 2 ou 3 évangiles ? Est-ce que vous avez toujours 2 ou 3 évangiles sur vous ? Moi, ça m'arrive des fois d'oublier. Et qu'est-ce que j'en ai ? Qu'est-ce que je regrette des fois ? Parce que ça vaut la peine des fois de donner un évangile. Partez avec des évangiles. On vous l'a dit, on vous autorise même à les voler dans l'église. Prenez-les, volez-les, mais ne partez pas sans évangile. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs ? On reviendra sur ce point. On va fermer les yeux quelques instants. Mes frères et sœurs, la vie de l'esprit, la puissance de l'esprit, l'onction du Saint-Esprit ne peut pas passer autrement que par le fait que nous devenions de véritables disciples. Alors on va terminer en priant. Vraiment, sérieusement, ce texte de Matthieu 16, peut-être vous allez le lire pendant les prochains jours et dire, mais Seigneur, où j'en suis ? Où j'en suis de cette vie de disciple ? Mais où j'en suis ? En ce qui concerne le fruit, en ce qui concerne l'amour, en ce qui concerne le début qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que vraiment, vraiment j'aime la vérité ? Est-ce que vraiment c'est moi qui juge la Bible ? Ou est-ce que je laisse la Bible juger mon cœur ? Alors là, vous êtes heureux. Si vous êtes arrivé à ce stade où c'est la Bible qui peut vous juger, eh bien vous êtes heureux. Vous êtes heureux parce que ça prouve que vous êtes sur le bon chemin. Mais mes frères et sœurs, sur le chemin, vous le savez, on peut s'en détourner. Et quelqu'un qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, non pas qui dit « Ah, j'ai mal aux reins, c'est ma croix ». Mais vous vous rendez compte, quand on en est là dans l'église, tout ça, c'est des fardeaux. Vous ne choisissez pas d'avoir mal aux reins. Mais la croix, c'est un choix. Je choisis de renoncer à ma propre volonté pour faire celle du Seigneur. Oui, rappelons-nous cette question, que ferait Jésus à ma place ? Seigneur notre Dieu, oui, tout ce que nous avons chanté, nous voulons vraiment le vivre. Nous croyons, oui, que ton esprit, tel un flot, peut se rapprocher et envahir cette ville de Toulouse. Nous savons, Seigneur, que tu veux faire de nous, oui, des vases d'or pur. Oui, feu du fondeur. Toi, le Seigneur, toi, le divin potier, tu es capable de nous purifier. Et par ta parole, de faire redonner des chandeliers, vraiment tout en or, qui pourront recevoir cette huile par laquelle ton esprit va pouvoir se mouvoir. Seigneur, ce soir, tu as voulu que nous partagions ces choses sur le caractère du disciple. Seigneur, s'il te plaît, que ceux qui sont là ce soir décident, qu'ensemble nous puissions décider d'être de véritables disciples qui marchons dans la sainteté, dans la pureté, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Aide-nous, Seigneur, dans ces prochaines prédications, aide-nous à entendre ta voix et à recevoir ta pensée. Nous le demandons pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Amen.